Bonsoir, un seul thème dans l'émission de ce soir, journée internationale de la liberté de la presse célébrée hier dimanche 3 mai, avec comme thème cette année, médias, dialogue et compréhension mutuelle. Quel est l'apport des médias congolais dans le renforcement du dialogue et de la compréhension mutuelle? Comment améliorer ce rôle des médias en RDC? Pour en parler, nous recevons comme invité Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement central. Il intervient au téléphone. Jivis Chivwadi, secrétaire général de l'ONG Journaliste en Danger, GER, il est avec nous au studio. Rigobert Mukini Lapès, communicologue, professeur et chef de département du journalisme à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IPACIC, il est également au téléphone. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Journée internationale de la presse célébrée hier dimanche 3 mai avec comme thème médias, dialogue et compréhension mutuelle. Les possibilités qu'offrent les médias de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la réconciliation constituent le thème de cette journée mondiale de la liberté de la presse célébrée par l'UNESCO. Pourquoi avoir choisi ce thème? La réponse avec Kéline Côté.
Dans son discours à l'occasion de cette journée, le directeur général de l'UNESCO estime que dans le monde contemporain, où les forces de la mondialisation accélèrent l'interaction entre les peuples, l'une des principales difficultés consiste à dépasser les différences culturelles pour communiquer. Pour Koichiro Matsura, les médias, en leur qualité d'arbitre, doivent jouer le rôle important qui consiste à encourager et faciliter cette communication et aussi à offrir à toutes les parties constitutives de la société un espace de débat qui leur soit ouvert à toutes. À l'UNESCO, on estime par ailleurs que chacun a le droit de s'exprimer franchement, voire avec sévérité, tant que son intention n'est pas d'inciter à la discrimination, à l'hostilité ni à la violence. Toute tentative de restreindre le droit des libertés d'expression doit être pondérée par l'application de ce critère. Le directeur général de l'UNESCO, Koichiro Matsura, pense donc que seul un média libre, c'est-à-dire un média dynamique, indépendant, pluraliste, inclusif et équitable, dont la rédaction est libre et à l'abri de la censure, et des influences d'intérêts politiques, économiques ou autres, peut intrinsèquement contribuer au dialogue et à la compréhension qui transforme les barrières.
Professeur Rigobert Mukini Lapès, bonsoir.
Professeur, bonsoir monsieur.
Vous êtes professeur et chef du département du journalisme à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACIC. Quel est, à votre avis, l'apport des médias congolais dans le renforcement du dialogue et de la compréhension mutuelle?
Je m'excuse. Les médias congolais ont apporté beaucoup dans le dialogue entre Congolais. Il suffit de remonter pas très loin dans l'histoire du Congo, ne fût-ce que autour du dialogue intercongolais pour voir tout le rôle que les médias congolais ont joué pour ce dialogue-là. Mais pour dialoguer, il faut comprendre que les autres doivent parler, que tout le monde doit parler, et c'est là où ça pose beaucoup de problèmes en ce qui concerne les médias congolais. C'est-à-dire la volonté peut-être d'installer le dialogue y est, mais maintenant, il y a un problème entre le dialogue entre les acteurs, c'est-à-dire quelque part il faut mettre en place tous les moyens pour que les Congolais puissent dialoguer. Mais je crois que la technicité y est, les médias congolais font beaucoup d'efforts pour arriver à faire dialoguer les Congolais.
Monsieur le ministre Lambert Mende, quel est votre avis par rapport à l'apport des médias congolais dans le renforcement du dialogue et de la compréhension mutuelle?
Je pense que je peux remonter jusqu'à la conférence nationale souveraine. Avant la conférence, la société était plus ou moins figée dans une sorte de monologue de ceux qui détenaient le levier du pouvoir. Après la conférence nationale, on a eu quand même à enregistrer des échanges qui ont permis de redynamiser la société. Et je pense que les médias sont pour une large part les acteurs de cette revivification du débat démocratique dans le pays. De temps en temps, on déplore quelques excès, mais je pense que ces excès valent mieux et sont en fait le fruit de l'apprentissage que autre chose. La société congolaise se porte un peu mieux, même si ce n'est pas la panacée, comme je l'ai dit ce matin au centre Wallonie-Bruxelles, qu'avant, parce que les gens se parlent, les gens peuvent se comprendre et ainsi gérer par le dialogue des choses qui se géraient auparavant uniquement par les armes, même si nous avons subi aussi des poussées de conflits armés, mais qui venaient plus de l'extérieur que d'une dynamique interne. Après, cela a été pour beaucoup.
Kivis Kivadi, vous êtes secrétaire général de l'ONG Journaliste en Danger, GED. Les médias sont acteurs de la révitalisation du débat démocratique en RDC. Ce sont les propos du ministre Lambert Mende et autres.
Si vous permettez, avant que je ne réponde à votre question, je voudrais annoncer et saluer ce soir la levée de la mesure d'interdiction qui frappait deux radios communautaires à l'ICACI. Dans la province de Katanga, ces médias ont été suspendus depuis le mois de mars sur une décision du maire de la ville qui les accusait faussement d'entretenir la situation de tension qui régnait au moment où les travailleurs de l'association des chemins de fer étaient en train de réclamer leurs 36 mois de salaire non payé. Alors ces médias ont été accusés d'entretenir la grève ou d'inciter, n'est-ce pas, à la grève. Je crois que c'est une mesure que nous saluons.
Ça tombe bien avec la journée.
Absolument, c'est dans le cadre de la célébration que GED a demandé. Le président de GED se trouve présentement à l'ICACI, justement, où il est allé organiser un atelier de sensibilisation des journalistes. Et à cette occasion, il a demandé officiellement au ministre qui a en charge l'intérieur et la communication de pouvoir lever cette mesure. Ça a été fait ce soir. Et donc, dès ce soir, les deux médias peuvent commencer à organiser. Et mettre de nouveau. Donc, c'est une bonne décision et un signal encourageant. Maintenant, pour revenir un peu à la question que vous avez posée, je voudrais dire que, en fait, les conflits sont inhérents dans toutes les sociétés où vivent les hommes. Et non seulement la RDC a connu plusieurs années de conflits armés, mais il existe encore des foyers de tension dans beaucoup de provinces de notre pays. Et donc, je retiens de la déclaration qui a été faite tout à l'heure par le représentant de l'UNESCO que les médias ont un rôle d'arbitre, exactement comme sur un terrain de foot où il y a deux équipes qui s'affrontent. L'arbitre est là pour sanctionner les manquements, pour siffler les fautes. Mais pour que l'arbitre, pour que les médias puissent jouer effectivement ce rôle d'arbitre, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies.
Nous en parlerons dans la deuxième partie.
Okay.
Alors, Monsieur le ministre Lambert Mende, il y a Anatole Rouongou, étudiant en communication sociale à Kasogo, il demande si la liberté de l'expression est respectée en RDC. Si oui, pourquoi couper le signal de RFI à Bunia dans la province orientale alors qu'elle dit souvent des vérités que certains médias nationaux cachent à la crainte de par crainte de vos pressions?
Je crois que notre ami de Kasogo devrait faire la part des choses entre l'information qui est donnée et des attitudes irresponsables que aucun professionnel des médias congolais ne pourrait tolérer lorsque nous nous trouvons en période de guerre et nous sommes pour certaines parties de notre pays encore dans une période qui peut être définie de cette manière-là, qui consisterait pour un média de surcroît situé à l'étranger à inciter les militaires que notre pays engage pour le défendre à se mutiner. Il y a eu des cas de ce type-là. On a eu des incitations à la mutinerie. Nous sommes un gouvernement responsable. Même les gouvernements les plus démocratiques n'acceptent pas cela. Nous avons un problème d'incommunicabilité entre certains groupes ethniques à l'est de notre pays. Il y a cet atavisme interethnique plus ou moins sécuritaire, séculaire. Nous voulons le combattre et lorsqu'un média pour l'étranger essaye de raviver ces conflits entre différentes tribus alors que cette espèce sorte de réminiscence porte atteinte à la sécurité nationale. Nous ne sommes plus là dans le domaine de ce qui doit être dit ou ce qui ne doit pas être dit. Souvenez-vous de la situation de Falacha en Éthiopie. On a eu l'information, on l'a gardée pour faire réussir l'opération. Ici, c'est la survie de millions de personnes qui étaient en cause. Et donc, nous avons plusieurs fois parlé avec ce média. Nous avons constaté qu'il ne s'agissait même pas d'une politique de cette maison qui est en France, mais plutôt de la vengeance d'un de ses préposés contre les dirigeants congolais qu'elle accuse de l'avoir expulsé en 2006.
Nous avons mis en
pour mettre notre sécurité nationale à l'abri. Et c'est la première fois que cela intervient. Nous avons beaucoup de médias étrangers ici. Nous avons un nombre encore plus important de médias nationaux. Ce n'est pas pour le plaisir, croyez-le, que de telles mesures sont prises. Il y a des implications de sécurité.
Monsieur le ministre Mende, nous n'avons rien contre nos confrères de la RTNC, mais on a quand même vu à un certain moment un président de l'Assemblée nationale encore en fonction être insulté sur la chaîne nationale pendant de longues minutes et vous n'avez pas réagi à l'époque. Hein?
Je crois que la personne qui a été insultée a d'abord la capacité de réagir. Deuxièmement, nous avons des instances de régulation interne qui peuvent intervenir. Nous n'avons pas cette possibilité vis-à-vis du média étranger dont on a parlé. Et ici, il s'agit d'un problème qui n'a rien à voir avec la sécurité de l'État. Vous savez, vous m'insultez, moi je vais en justice. Mais lorsque vous incitez des militaires à se mutiner, il n'y a plus d'État. Donc c'est deux choses tout à fait différentes. Je pense qu'il faut savoir hiérarchiser les problèmes.
Merci. Tu vois, secrétaire général de l'ONG, journaliste en danger.
D'abord, je n'ai pas personnellement suivi les déclarations, les informations qui sont incriminées. Donc je ne peux pas y répondre. Mais ce que je viens de suivre, c'est beaucoup plus les accusations du ministre. Je pense que le ministre peut avoir raison. C'est possible qu'il ait raison de ce qu'il est en train de dire, de ses accusations, mais je ne pense pas qu'il ait raison de vouloir couper le signal tout simplement parce que les informations qui ont été diffusées peut-être ne sont pas vraies ou que, comme il dit, ce sont des incitations. Il s'agit simplement des accusations. Je ne suis pas là pour défendre les récits. Je pense qu'ils ont les moyens de pouvoir les défendre, mais je dis couper le signal, c'est une décision qui est contre-productive, qui, en tout cas, à notre avis, serait un peu disproportionnée. Parce que c'est des choses auxquelles on est habitué ici. Le ministre, il est en même temps porte-parole du gouvernement, et quand vous lui posez la question sur ce qui s'est passé à la RTNC, il a dit la personne incriminée peut exercer son droit de réponse. Alors moi, je ne comprends pas ici pourquoi, chaque fois que des informations sont diffusées, y compris par les médias extérieurs, si des informations ne sont pas vraies, je crois que la moindre des choses, et qui peut même décrédibiliser ces médias, il a toute la latitude d'aller sur les mêmes médias, de demander un droit de réponse, de donner l'information, de démentir. Je crois que de cette façon-là, non seulement s'il s'avère que dans un média, chaque fois qu'il donne des informations, un média comme RFI, ces informations sont démenties, je pense que RFI y perdrait de sa crédibilité. Au contraire, quand on agit par la force, quand on utilise des méthodes un peu fortes, c'est-à-dire couper le signal, ça c'est un coup de force, pour priver le public de l'information, il s'agit d'une grave atteinte au droit du public à être informé, parce que le public a le droit d'être informé de tous les fonds de cause de ce qui se passe. Si la journaliste d'un récit incite ou donne des fausses informations sur ce qui se passe, je crois qu'il revient au ministre, il a tous les moyens pour cela, au lieu de nous donner l'impression que RFI aurait une force telle qu'il suffit d'une information d'une journaliste de RFI pour que les militaires qui sont au fond puissent se mutiler. Je crois que là, on essaie quand même un peu de donner trop de force à la RFI qui en a en réalité.
Merci. Professeur Moukeni, un extrait du discours de M. Koichiro Matsura, directeur général de l'UNESCO, il dit, je cite, « À l'UNESCO, on estime que chacun a le droit de s'exprimer franchement, voire avec sévérité, tant que son intention n'est pas d'inciter à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. Toute tentative de restreindre le droit à la liberté d'expression doit être pondérée par l'application de ce critère. » Êtes-vous de cet avis, professeur Moukeni?
Tout à fait, je suis tout à fait de cet avis-là. Je voudrais ici relever quelque chose. Je ne crois pas que les médias et les journalistes soient des arbitres. En fait, c'est pas ça. Les médias et les journalistes sont des médiateurs. Les médias et les journalistes sont au centre. Ils prennent ce qui vient à gauche, ils ramènent à droite. Ils prennent ce qui vient à droite, ils ramènent à gauche. En fait, les médias jouent le rôle de transmetteurs. Et si, dès lors qu'on considère, on continue à considérer les médias comme, et les journalistes comme étant des arbitres, on donne l'impression que si les médias sont des lieux de combat forcément, et chaque acteur qui viendrait dans ce lieu-là doit se protéger, doit protéger ses intérêts. Et dès lors qu'on a cette vision-là des choses, forcément, on commence à aller vers les restrictions, comme l'a dit Monsieur le ministre. Dès le moment où on pense que telle information va amener à ceci, eh ben on arrête cette information-là. Mais si on considère les médias comme étant des lieux où les êtres humains, tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur tribu et tout ça, peuvent passer pour parler, dialoguer avec les autres, de sorte à aller vers une compréhension mutuelle, je pense que toutes ces restrictions-là vont aller petit à petit en s'estompant. Parce que je ne pense pas qu'en fermant un média ou en interdisant à un journaliste de faire son travail, on résout le problème. Le
problème est parler de du RFI.
Ça peut revenir même dans notre média. Et donc, en ce moment-là, on ne permet pas aux autres, à tout le monde, de dialoguer.
Vous voulez parler, professeur, du cas de RFI, par exemple?
Par exemple, de RFI. Parce que l'exemple, c'est RFI, quand on est le signal de RFI. Mais il y a d'autres médias qui peuvent parler aussi. La BBC peut passer aussi. Mais on va aller juste à interrompre BBC, la voix de l'Amérique? Non, je pense. Je crois que la solution, comme l'a dit Chouvel, c'est que le Congolais, le gouvernement congolais, doit se donner les moyens de répliquer, les moyens de dialoguer avec les autres. Parce que tout ce que fait passer RFI n'est pas forcément vrai. Mais pour contraindre RFI, faut pas interrompre RFI, il faut démontrer à RFI que ce que RFI a avancé, c'est en fait point à la ligne. Le ministre Mende, au début, maintenant je ne l'entends plus souvent, mais au début quand il a pris ses fonctions, mais il répliquait tout le temps à RFI, et je crois que tous les Congolais étaient heureux parce que ils trouvaient du répondant à ce que RFI disait ici. Alors, je crois que pour aller vers une démocratie un peu plus libérée, il faut continuer à dialoguer, il faut continuer à intervenir et ne pas démontrer à RFI que quelque part ici on a peur des nouvelles qu'elle pourrait véhiculer dans ces médias.
Monsieur le ministre Lambert Mende, Donambaya, président du GED, a sur nos antennes exprimé des inquiétudes parce que, je le cite, les pouvoirs politiques et financiers constitue une menace quant à la crédibilité des médias en RDC. Quand on regarde le paysage médiatique congolais avec les médias qui ne sont pas subventionnés, qu'est-ce que le gouvernement fait pour améliorer le travail des journalistes tout en les laissant libres?
Je dirais d'abord, s'agissant du dossier RFI, pour le clôturer, que cette décision est la suite d'une longue série d'interactions entre le gouvernement et cette radio. Le professeur a rappelé que bien souvent nous avons dû intervenir, mais pour continuer une telle négociation sur le long terme, il faut un minimum de bonne foi. Ensuite, nous n'avons pas un problème avec RFI comme entreprise de médias ou comme générateur d'informations qui sont distribuées. On a un problème avec une préposée de RFI qui règle un problème personnel. Et nous posons la question à cette entreprise, pourquoi laisser quelqu'un régler ses problèmes personnels au détriment de la sécurité d'un pays? Bon, c'est un débat que nous pouvons avoir. Il arrive un moment où, pour des raisons de sécurité, il faut absolument interrompre une infraction qui est en train de se commettre, plutôt que d'attendre qu'elle ait provoqué des morts d'hommes. Nous avons eu des cas comme ça, où nous avons déploré une situation sécuritaire grave suite à la manifestation de contre-vérité par ce média.
Monsieur le ministre, oui. Au-delà de RFI, hein, nous avons déjà clôturé ce chapitre-là, qu'est-ce que le gouvernement congolais, vous demandais-je tout à l'heure, fait pour améliorer le travail des journalistes tout en les laissant libres?
Les journalistes au Congo, je pense, comme tous mes deux interlocuteurs l'ont constaté, ne sont pas nécessairement emprisonnés. Je pense que depuis 90, et plus encore depuis le dialogue inter-congolais, les gens sont libres. Sans doute n'ont-ils pas tous les moyens pour exercer correctement leur liberté, c'est-à-dire la qualité n'est pas toujours là, il y a des problèmes de formation, et donc c'est un problème de moyens que l'État doit s'efforcer, non pas de mettre à disposition, mais de créer des conditions qui permettent aux médias d'accéder à l'information en disposant de moyens idoines. Et donc là, il y a bien sûr la santé de l'économie qui doit absolument être le reflet de la santé des médias qui sont une partie de l'économie nationale. Ensuite, il y a le soutien que le gouvernement lui-même a le devoir d'apporter aux entreprises de médias parce que la libre circulation des idées, des informations est une valeur que le gouvernement doit garantir constitutionnellement. Et là, nous ne pouvons agir qu'à la limite des moyens budgétaires dont nous disposons. Jusqu'il y a peu, nous avions l'habitude d'inscrire 2 millions de dollars au budget au titre d'aide publique à la presse qui n'ont jamais été libérés. Je dis, ça c'est un dysfonctionnement. Nous devons y mettre un terme et je suis décidé à le faire. Cette année-ci, on n'a pas inscrit le montant, on a inscrit un peu moins que cela. J'ai deux combats. Le premier, c'est de ramener les crédits alloués à ce montant qui a toujours été inscrit les années précédentes. J'ai bon espoir qu'on va effectivement rehausser jusqu'à ce niveau-là. Deuxièmement, il faut faire libérer ce montant. Nous sommes arrivés à un compromis qu'on le libérera au 12e, c'est-à-dire chaque mois.
Merci, monsieur le ministre.
Et nous allons utiliser ça avec les associations de médias sur base de la mutualisation pour les aider à couvrir même un minimum de leurs besoins.
Merci, monsieur le ministre. C'est dit ce qu'il vous a dit. Le ministre Mende vient de parler de la qualité de la presse congolaise. Comment trouvez-vous cette qualité?
Eh bien, écoutez, d'abord, je voudrais constater que quand on regarde effectivement aujourd'hui les statistiques en ce qui concerne les atteintes à la liberté de la presse, on a l'impression, on note effectivement qu'il y a une amélioration quantitative de nombre de journalistes qui ont des atteintes à la liberté de la presse. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de journalistes qui sont arrêtés, emprisonnés, d'autres qui sont agressés et menacés. Mais nous avons constaté que cette amélioration quantitative se fait effectivement un peu au détriment de la qualité des informations qui sont diffusées. Par le passé, nous avons constaté que des journalistes étaient arrêtés, emprisonnés, non pas parce qu'ils donnaient des fausses informations, mais justement tout simplement parce que on voulait faire taire ces journalistes ou parce qu'on voulait se venger de ces journalistes-là. Aujourd'hui, je ne pense pas que les prédateurs d'hier sont devenus aujourd'hui les défenseurs de la liberté de la presse pour justifier ce nombre décroissant dont on ne se plaint pas, des journalistes qui sont pas inquiétés. Mais à la place, nous constatons que des journalistes exercent sur eux-mêmes une grande autocensure qui fait que, effectivement, tant que des journalistes n'abordent pas des questions sensibles, des questions qui fâchent, on les laisse tranquilles. Et l'épisode des RFI est là pour démontrer qu'effectivement, tant qu'on n'aborde pas les questions qui fâchent, tant les questions sensibles, tant qu'on va dans le sens des thèses du pouvoir et du gouvernement, on est tranquille. Mais une fois qu'on aborde ces questions, on a des problèmes. Vous imaginez bien que ce que RFI est en train de diffuser, si c'était diffusé sur les médias congolais, vous imaginez bien la suite. Donc, parfois on a l'impression qu'il s'agit bien d'une liberté un peu de façade, parce que les journalistes ne font pas leur travail à ce moment-là. On peut les laisser tranquilles, mais cela me pousse aussi à constater que, de manière générale aujourd'hui, les hommes politiques ont quasiment cadré les médias. Nous avons connu depuis la conférence nationale un phénomène qu'on appelait un phénomène d'un ministre, un journal ou une radio-télévision. Chaque ministre sera responsable avec son journal ou sa station de radio ou de télévision. Aujourd'hui, on en est encore là, où chaque ministre sera responsable à pratiquement son journaliste ou son réseau de journalistes chargé de veiller à son image et de faire en sorte que rien de compromettant contre celui-là ne puisse passer dans son média. Et cela nous inquiète beaucoup. Et cela justifie la qualité aujourd'hui de l'information. Nous avons l'impression que les médias font beaucoup plus de la communication des hommes politiques, des gens qui ont les moyens, qui ne font des véritables informations, qui ne vont au fond des véritables questions qui intéressent le public. Et ça aussi, c'est très dangereux parce que la liberté de la presse, c'est pas seulement le droit pour les journalistes de chercher des informations, c'est le droit aussi du public à être informé correctement sur toutes les questions qui l'intéressent par des médias qui soient effectivement libres et indépendants. Or, aujourd'hui, comme vous avez dit, il se pose une question de la crédibilité de nos médias. Sont-ils libres? Sont-ils indépendants par rapport aux forces politiques, aux forces de l'argent? Je crois que c'est une question qui devrait beaucoup plus interpeller, non pas le pouvoir public, politique, qui ont intérêt justement à avoir les médias avec eux, mais beaucoup plus la profession, c'est-à-dire les journalistes, Qu'est-ce qui reste à un journaliste, à des médias, lorsqu'ils ont perdu leur crédibilité par rapport à leur public? Surtout à ce moment où nous évoluons dans un monde de la mondialisation, où les informations circulent de partout, où les gens peuvent s'informer par toutes les sources. Si nos médias ne sont pas capables d'entrer dans cette compétition pour donner des informations qui intéressent le public, je crois qu'ils vont se déconsidérer et se décriminaliser totalement.
Professeur Rigobert Aumoukeni, vous venez de suivre TV Ce qui voit dit et le ministre Lambert Mende sur la qualité de la presse congolaise. Il y a Malonga Koubali, un auditeur de Bandundouville, qui estime pour sa part que la presse congolaise est insécurisée suite aux journalistes eux-mêmes qui ne suivent pas encore l'éthique et la déontologie journalistique. Ils deviennent attachés à leurs alliés au lieu d'être indépendants, fidèles et de travailler dans la neutralité.
Bon, je suis d'accord avec ce que l'auditeur dit, mais à l'origine de tout ça, et là je voudrais un peu égratigner monsieur le ministre, parce que lui-même a égratigné la formation. Il a dit qu'il y a des problèmes qui se posent au niveau de la formation. Moi, étant du domaine, je peux quand même réagir à ça. Je me dis que c'est vrai, la formation a un problème dans notre pays et c'est généralisé. Mais lorsque vous regardez les journalistes qui sont sur le terrain, à Radio Okapi, tous ceux qui sont à Radio Okapi ont été formés au Congo, dans les écoles de journalistes d'ici. Mais regardez la différence qu'il y a entre ceux-là et certains qui sont dans d'autres médias qu'on pourrait considérer comme étant médiocres. C'est que quelque part, le problème n'est certainement pas fondamentalement de la formation, le problème est ailleurs. Et ce problème qui est ailleurs rejoint le ministre, parce que quand il dit quelque part qu'il y a un certain nombre de chantiers, je crois qu'il n'en a pas que deux. Il y a le grand chantier, le plus important chantier, c'est les conditions de travail du journaliste. Je ne sais pas si en accordant de l'aide aux entreprises de presse, on va résoudre le problème du journalisme fondamentalement. Là-dedans, il y a les conditions de travail, il y a toute la législation autour du travail. Moi, je suis énormément nos étudiants qui sont sur le terrain, mais ce sont des gens qui vivent comme des pauvres dans ce pays-ci, avec un diplôme d'université. Quand ils vont dans les médias, c'est des gens qui n'ont même pas de contrat. S'ils n'ont pas de contrat, on peut leur envoyer n'importe quand. Ça, c'est des dossiers que le ministre doit prendre. Et à chaque fois qu'il y a un ministre qui commence ce dossier-là, ça ne se termine jamais. Donc, je ne pense pas que ça soit un problème de formation et de non-respect d'éthique de manière délibérée. Je ne pense pas.
Donc, c'est plus un problème de formation de travail.
Formés, ils vont sur le terrain, ils peuvent faire leur travail. Mais quand ils vont sur le terrain, ils se trouvent dans des situations telles qu'ils ne peuvent pas faire leur travail comme il faut. Alors, c'est de l'incompétence qui ressort. C'est des gens qui ne respectent rien et on croit qu'ils le font délibérément, mais c'est parce qu'ils sont dans ils se trouvent dans des conditions de travail tout à fait pénibles. Plus pénibles que la plupart des conditions de travail qu'il y a dans ce pays.
Kévis, tu vois dit, je vais vous accorder la parole, le temps de prendre cet élément de l'UNPC. L'exercice de la liberté de la presse constitue tout l'environnement économique général qui permet une bonne émergence des entreprises de presse économiquement viables et pouvant prendre en charge les conditions sociales des journalistes qu'elles emploient. Ces propos sont ceux de Chantal Kanyimbo, présidente de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Elle a été jointe au téléphone par Guy Maté.
Liberté de la presse, ce n'est pas seulement le cadre juridique qui, heureusement, existe dans notre pays, mais qui, à notre avis, devrait être amélioré, et surtout que le pouvoir public respecte ce cadre juridique qui fixe les modalités de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays, surtout en ce qui concerne les décisions, des suspensions, des fermetures des organes des presses qui se font généralement en dehors des procédures prévues par la loi. L'exercice de la liberté de la presse et également les conditions de travail des journalistes. Et dans notre pays, vous le savez, dans la plupart d'organes des presses, où travaillent des journalistes, qui ne peuvent pas être considérés comme des entreprises des presses. Les journalistes n'ont pas de contrat de travail, n'ont pas de rémunération, et donc ça ne favorise pas la professionnalisation du métier de journaliste, et ça ne favorise pas non plus la responsabilité de l'exercice de la liberté de la presse, dans la mesure où un journaliste qui qui se trouvent dans des conditions sociales difficiles, où le journalisme doit se contenter de ce que nous appelons pudiquement ici le coupage pour pouvoir vivre. Je ne pense pas que les journalistes pourraient exercer la liberté de la presse en toute responsabilité et surtout en toute indépendance dans ces conditions.
Sachez que concernant la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée hier dimanche 3 mai, l'Union de la presse congolaise a lancé un appel au boycott de cette journée. Selon Chantal Kanyimbo, sa présidente, cette décision est solidaire à la position de la Fédération internationale des journalistes qui dénonce l'attitude de l'UNESCO d'organiser cette journée au Qatar, alors que dans ce pays, il y a absence de liberté de la presse. Thierry Stivoadi, vous êtes secrétaire général de GED, journalistes en danger. Les conditions sociales difficiles du journaliste ne permettent pas ou ne facilitent pas la professionnalisation du média de journalistes en RDC.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je comprends tout à fait hein, les conditions dans lesquelles moi-même j'ai été journaliste, dont je connais les conditions sont difficiles, mais je refuse, en tout cas, j'ai nous refusons de tout justifier par la pauvreté du journaliste, justifier le fait qu'un journaliste ne soit pas en mesure de faire correctement son travail, de respecter. Parce qu'on dit, tout à l'heure, j'ai entendu, mais Chantal parler, de la liberté de la presse qui rime avec responsabilité. Et qui dit responsabilité, ça veut dire respect des textes, respect des normes qui guident cette profession. Un professionnel, quand on dit d'un journaliste qu'il est un professionnel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît son métier et qui ne peut pas justifier le fait de ne pas respecter un certain nombre de normes, un certain nombre de règles par le fait simplement qu'il est pauvre, ou alors il faut changer de métier. Nous avons un code au-delà de la loi, le journaliste a ce qu'on appelle son code d'éthique déontologique, qu'on appelle d'ailleurs son code d'honneur, qui lui interdit un certain nombre de pratiques. On ne peut pas aujourd'hui accepter et comprendre qu'un journaliste actif, rédacteur en chef ou directeur des informations, soit en même temps conseiller politique ou en communication d'un ministre et que le soir il passe sur le plateau pour présenter un journal. C'est ça la pratique. Vous avez aujourd'hui 60 à 70% des journalistes actifs, des reporters, même des responsables des médias qui travaillent dans des cabinets politiques où ils sont payés. Ça, c'est tout à fait interdit. La Cour des télévisions ne le permet pas. Si c'est pour pouvoir survivre, je pense bien que tous ces journalistes trouvent bien le moyen de pouvoir survivre dans les cabinets politiques. À ce moment-là, ils devaient prendre congé des rédactions. Et donc, on ne peut pas, je comprends, mais on ne peut pas justifier. Ça devient dangereux lorsque les journalistes commencent à justifier le fait qu'ils ne respectent pas leur code d'honneur, commencent à justifier la corruption, commencent à justifier la manipulation dont ils usent par le fait que non, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de contrat de travail. Ça devient très dangereux. À ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les journalistes qui deviennent eux-mêmes nuisibles pour la liberté de la presse.
Merci, Monsieur le ministre. Lambert Mende, Stivoadi vient d'évoquer le cas de ces journalistes qui sont dans des organes de presse et qui sont en même temps dans les cabinets des ministres et autres. Qu'est-ce que vous en dites?
Au niveau du gouvernement, nous avons la charge de prendre la défense aussi bien des professionnels des médias eux-mêmes que du public, et surtout d'ailleurs des intérêts du public. Ce qu'a dit M. Tivoadi engage bien sûr la profession, et je me garderai de commenter, n'étant pas moi-même ce qu'on pourrait appeler un journaliste ou un professionnel des médias. Je pense qu'ils ont leurs règles d'éthique auxquelles il a fait allusion, et je pense qu'ils sont meilleur juge de la façon dont ces règles sont respectées. Du point de vue du public, effectivement, il y a un besoin d'un peu plus de professionnalisme, d'un peu moins de lien avec le monde, comme on a dit, puissance d'argent, ou même l'extérieur, parce que lorsqu'on a évoqué la liberté de la presse, moi, ce matin, j'ai parlé de la liberté pour la presse, mais aussi la liberté par la presse, parce que la presse peut jouer un rôle important pour obtenir que nous puissions, nous, Congolais, nous libérer de certaines chaînes qui nous affaiblissent par rapport à certaines puissances qui sont tout autour de nous et à l'extérieur. Donc il y a un rôle, une responsabilité vis-à-vis du public. Ce à quoi vous faites allusion, effectivement, ces mécanismes de corruption sont un élément qui ne favorise pas les intérêts du public, mais ça doit être géré primordialement par les membres de la profession elle-même.
Professeur Rigobert Mukeni, peut-être en une minute ou en 45 secondes, je vous cite un autre extrait du discours du directeur général de l'UNESCO qui dit qu'un seul média, seul un média libre, c'est-à-dire un média dynamique, indépendant, pluraliste, inclusif et équitable, dont la rédaction est libre et à l'abri de la censure et des influences d'intérêts politiques, économiques ou autres, peut intrinsèquement contribuer au dialogue et à la compréhension qui transcende les barrières.
Oui, ben il a tout à fait raison. Mais moi, je me pose cette question. C'est trop beau hein, de dire que le journaliste tout seul dans un Congo neuf, tout ça, doit respecter son éthique et tout ça. S'il ne veut pas qu'il change, c'est bon. C'est, tu vois qui a dit ça. Mais je ne sais pas si c'est ça la réponse. Parce que aujourd'hui, tous ceux qui veulent que le journaliste ne fasse pas son travail, mais ils seraient très heureux de le voir changer de métier. Et si le journaliste qui est le professionnel se dit, bon, ben, je ne peux pas gagner ma vie ici, il faut que je change de métier, qu'est-ce que nous aurons dans la presse? Déjà, on voit que ceux qui deviennent journalistes aujourd'hui, il y en a plein qui ne viennent même pas des écoles de journalisme. Donc, quelque part, dire que très facilement, ceux qui pensent que leur liberté n'est plus assurée devront changer de métier, c'est trop facile. Moi, j'estime que quelque part, nous devons, tout le monde est acteur de l'espace médiatique. Le gouvernement est acteur, le gouvernement doit mettre du sien, les journalistes eux-mêmes doivent apporter de l'heure, les responsables des médias doivent aussi apporter de l'heure pour que l'espace soit assaini. Mais on ne peut pas laisser la responsabilité de l'assainissement de l'espace au seul journaliste sous prétexte qu'il a une éthique à respecter, mais il va le respecter au ciel. Mais si c'est sur Terre ou au Congo, je ne sais pas comment il va le faire tout seul.
Merci professeur. Un seul thème dans Dialogue entre Congolais de ce soir, journée internationale de la liberté de la presse célébrée hier dimanche 3 mai avec comme thème cette année médias, dialogue et compréhension mutuelle. Quel est l'apport des médias congolais dans le renforcement du dialogue et la compréhension mutuelle? Comment améliorer ce rôle des médias en RDC? Nous en parlons avec Lambert Mende, ministre de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement central, suivi ce qu'il voit dit secrétaire général de l'ONG Journaliste en Danger, Rigobert Mukeni-Lapès, professeur à l'IFACIC. Avant de poursuivre, le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
En marge de la journée internationale de la presse célébrée ce dimanche 3 mai, à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, l'ONG Journaliste en Danger a organisé une journée de réflexion sur le professionnalisme et l'indépendance des médias. Le constat est que la quasi-totalité des radios appartiennent aux acteurs politiques. Ces médias sont devenus ainsi des canaux par lesquels les politiciens se livrent aux attaques verbales. Le point avec Dominique Wolombi.
Suite aux dérapages répétés constatés de la part des radios locales, GED a mis à profit cette journée pour réfléchir avec les journalistes de Mbandaka sur le professionnalisme et l'indépendance des médias comme gage du dialogue et de la compréhension mutuelle entre les peuples. Puis Roger Bofunga, coordonnateur provincial de GED Équateur, explique ce qui a poussé son ONG à organiser cette journée de réflexion.
La presse est divisée avec dépendance. Il y a une presse qui soutient un individu, un autre soutient un autre. D'où nous devons les rappeler l'éthique et la déontologie professionnelle des journalistes. On a vite compris que les journalistes ne servent pas le public, mais ils sont en train de servir soit le parti politique ou l'idéal de parti politique.
Les participants à cette journée de réflexion ont apprécié l'initiative des journalistes à danger, comme les témoignent Charles Lokama des radios Munda de l'Église catholique.
Le journalisme a ses règles pour connecter l'information, la traiter et la diffuser selon les normes. Et il fallait une telle rencontre pour que des cacophonies qu'on a entendues les deux dernières semaines cessent, on n'en a pas besoin.
Cette journée de réflexion était animée par Patien Libogui, coordonnateur des GED et chargé de la recherche. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Professeur Rigobert Mukeni-Lapès, comment, à votre avis, améliorer ce rôle des médias ici en RDC?
Ben, comme je l'ai dit tantôt, il faut que tous les acteurs interviennent. Tous les acteurs. Le gouvernement a son rôle là-dedans. Les responsables des médias, tous les éditeurs et les patrons des ont leur rôle là-dedans. Les organisations professionnelles des journalistes ont leur rôle là-dedans, et éventuellement pour faire respecter
l'éthique, les journalistes eux-mêmes. Mais je me dis que dans tout ça, le soubassement est essentiel. C'est la formation du journaliste et les conditions de travail du journaliste. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a été mal formé, et Dieu seul sait pourquoi mal formé, parce que bon, même au niveau des écoles, il y a des problèmes, mais des universités, vous ne pouvez pas demander à cette personne-là de venir sur un terrain où les conditions de travail sont pénibles, de respecter quoi que ce soit. Les gens commettent des péchés, je crois que les prêtres le savent, les gens commettent des péchés lorsqu'ils sont devant beaucoup de problèmes, malgré leur foi, malgré leur envie de faire comme il faut leur travail. Donc, ne nous leurrons pas, la solution des médias congolais ne peut devenir que, ne peut provenir que d'un travail d'ensemble de tous ceux qui interviennent dans l'espace médiatique congolais.
Monsieur le ministre Lambert Mende, Georges Mouzaza de Kambove au Katanga se demande si le ministère national de la communication n'a pas d'autres mécanismes pour contourner ce qu'il estime comme étant des déviations des médias.
Il existe une panoplie légale et réglementaire à la disposition du ministère. Nous n'avons pas l'intention de recourir chaque fois à la méthode forte qui est effectivement souvent contre-productive. C'est pourquoi le cas de RFI est un cas extrême dans la provocation, dans le souci de faire mal et qui touche aux problèmes de sécurité du pays, a été géré avec beaucoup de sévérité, j'en conviens.
Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de faire autrement.
Mais pour le reste, je pense que nous avons la préférence lorsqu'il s'agit de comportements individuels de tel ou tel membre de la profession, de collaborer plutôt avec les corporations qui les mettent ensemble. Nous pensons effectivement que c'est plus efficace. Pour le reste, je pense que le journaliste est un citoyen. Il existe tous les mécanismes qui régissent les interactions sociales. À l'extrême, on va en justice lorsque son comportement, ses propos ont porté atteinte aux droits d'autrui, parce que même les droits professionnels s'arrêtent là où les droits des autres commencent. Donc ces mécanismes existent. Nous pensons que jusque-là, bon, il y a des problèmes, il y a des déviations, mais que petit à petit, nous nous dirigeons vers un mieux. Ce qui s'est passé à l'Équateur nous en donne la preuve.
Merci.
Il y a eu des excès. Je comprends que le responsable de GED n'ait pas voulu citer des noms. C'est la presse appartenant à des politiciens, et notamment dans le cas d'espèces de l'opposition, qui incite les gens à ne pas payer les impôts, par exemple.
Merci.
Donc, c'est une réaction dans les milieux professionnels, nous rassure. Nous sentons là qu'il y a une volonté de faire cohabiter les médias avec les règles de la vie sociale et de la vie légale.
Nous n'avons plus beaucoup de temps, monsieur le ministre. Merci. Thibis Tiboadi, vous êtes l'un des responsables des GED.
Écoutez, je voudrais encore m'inscrire un peu en faux contre les déclarations du professeur Moukeni, qui tend un peu à vouloir consacrer les responsabilités du journaliste à cause de soi-disant conditions de travail. Le professeur Moukeni, il est journaliste, et je me rappelle qu'on a été avec lui en 2004 à un congrès qu'on a appelé le congrès de la refondation de la presse congolaise, avec comme objectif de pouvoir effectivement assainir le secteur, parce que nous étions conscients qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Il y a la responsabilité qui incombe sur le pouvoir public, mais nous, en tant que journalistes, nous devons d'abord regarder ce qui nous concerne. Nous devons pouvoir assainir la profession. Ça veut dire qu'il y a 10 ans qui sont venus dans la profession et qui n'ont rien à y faire. Et donc, ce qu'on a appelé le mouton noir, et pour cela, au sortir de ce congrès, on a mis sur pied un certain nombre de structures pour pouvoir faire la police et pouvoir sanctionner. Et c'est le rôle notamment de l'observatoire des médias qui doit pouvoir sanctionner les manquements. Alors,
résumez-vous,
à la déontologie. Alors, commencez à vouloir justifier en disant ce sont les autres. Donc, ça veut dire, tant que le gouvernement ne fait pas sa part, ça veut dire que les journalistes peuvent se complaire dans la manipulation, dans la corruption. C'est tel que ça s'observe aujourd'hui. C'est très dangereux pour la liberté de la presse.
Merci, Thibaudi. Monsieur le ministre Lambert Mende, votre conclusion en 20 secondes.
Ben, je voudrais d'abord, à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté, saluer l'ensemble des médias congolais et dire que nous passons certes une étape extrêmement difficile, mais c'est le cas de toute la société. La presse congolaise ne peut pas être autrement que ne l'est la société congolaise.
Merci,
je pense qu'avec l'amélioration de la situation, ça ira mieux pour tout le monde et qu'ils pourront
donner
le service que la nation attend d'elle.
Merci, monsieur le ministre. Professeur Rigobert Moukeni, en 15 secondes, nous terminons avec vous.
Moi, je considère que la presse congolaise est une presse
tout à fait combattante. Elle est dans des, elle vit dans, elle travaille dans des conditions tout à fait difficiles. Je ne pense pas que les étudiants que nous formons et que nous formons même sur le plan lorsqu'ils vont sur le
Merci professeur, c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci de nous avoir suivis.